Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons lire la première partie d'un roman qui nous a beaucoup touchés. Il s'agit de « Photos de groupe au bord du fleuve » d'Emmanuel Dongala, publié aux éditions Actes Sud en 2010. Ce livre, c'est en effet le portrait vivant, actuel, d'un groupe de femmes au Congo. La narratrice, Méré, est de celle-ci, qui concasse toute la journée des blocs de grès afin de les réduire en gravier pour tous les travaux publics. Un mètre cube de gravier, ce sont 10 sacs remplis en 3 semaines. Chaque sac acheté 10 000 francs CFA est revendu 5 fois plus par des intermédiaires méprisants qui n'hésitent pas à renverser les sacs qui leur semblent mal remplis.
Quand on est analphabète comme vous l'êtes, on ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Vous pensez que vos sacs vont aller à pied jusqu'au chantier de l'aéroport? Et les camions? Savez-vous qu'en plus de l'essence, il faut vidanger un camion, graisser les essieux, charger la batterie, mettre de l'air dans les pneus, vérifier les patins des freins, nettoyer les vis platinées et d'autres choses trop techniques pour que vous compreniez. Savez-vous que tout cela coûte de l'argent, alors que vous ne faites que vous asseoir sur vos culs et cogner.
Dans cette lutte, Méré va jouer le rôle de leader. Son histoire singulière, comme celle de ses camarades de travail et de lutte, est distillée au cours des 32 chapitres qui sont la chronique de cette lutte. Méré raconte son expérience. Seule avec 3 enfants, les 2 siens et celui de sa sœur Tamara, morte du sida, elle a quitté son mari, Tito, qui a choisi une autre femme, s'est fait élire députée et fréquente les ministères en parvenu. Cette chronique évoque le simple quotidien de Méré et de ses compagnes, sa fatigue également, le soin qu'elle donne à ses enfants, son regret du passé, les études qu'elle a dû abandonner. Les compagnes de Méré constituent autant de visages de l'Afrique. Mouquetou, Bileko, Laurentine Paca, Batatou, Mama Moyalo ont chacune leur histoire, dans laquelle on lit les guerres et leur cortège d'exactions, les conséquences de la corruption et le courage de ces femmes.
L'une après l'autre, j'avais décliné leurs noms, montrant le respect que je leur témoignais en utilisant les mots « mama » ou « ma » devant le nom de celle qui était assez âgée pour être ma mère et « ya » pour celle qui ne l'était que juste assez pour être une grande sœur. Mama Moyalo, par exemple, qui pouvait bien nous représenter, car non seulement elle pouvait clouer un gendarme sur place rien qu'avec son regard, mais en plus, originaire de Mosaka, elle vous maniait la langue lingala comme pas deux. Mabileko de Boko, qui fut en son temps femme d'affaires, donc qui savait négocier. Et encore, Yamo Kietu, la grande sœur du village de Mayal Lama, à l'autorité incontestée depuis qu'elle avait assommé d'une baffe un homme qu'elle soupçonnait de vouloir la ploter en douce dans un bus. Mais il y avait aussi de plus jeunes que moi. Batatu, la mère des triplés dont un était mort à la naissance. Bilala, celle qui avait été chassée de son village par sa famille et avait failli être brûlée par ses propres enfants qu'il accusait d'être sorcière. Laurentine Paca de Inda, la plus coquette d'entre nous, et qui cela continuait chaque fois à m'étonner, portait toujours un livre de la collection Adora avec elle, ses romans à l'eau de rose publiés en Côte d'Ivoire. Issou de Sibiti, la taciturne, celle qui pouvait rester assise à casser des pierres pendant des heures, sans regarder personne ni émettre un son, car tout le monde savait qu'elle n'était plus très normale depuis que des soldats de la garde présidentielle avaient violemment arraché son fils d'entre ses bras, l'avaient jeté dans un camion bâché et qu'elle avait vu le camion disparaître à jamais avec son enfant, un beau gaillard de 18 ans. Sans compter Anne-Marie Ossolo, la citadine, arrivée au chantier 5 jours après moi, pas timide pour un sou, très belle femme malgré la mauvaise cicatrice qui lui entaillait le côté droit de son visage. Non, toutes voulaient que ce fût moi qui le représente, car j'avais longtemps été à l'école, je savais lire, je savais écrire et je parlais bien le français.
Flash info.
Flash info. Flash info.
Le président de la République du Congo a dépensé 400 000 dollars pour un séjour de 5 jours à l'hôtel Waldorf Astoria de New York. Les documents à notre disposition indiquent qu'il a loué une suite de 44 chambres pour loger les membres de sa famille et de la délégation qui l'accompagnait. Les employés de l'hôtel ont été interloqués de voir les hommes du président sortir des liasses de billets de 100 dollars de leur mallette pour régler la facture dans laquelle figurent des bouteilles de champagne de marque Cristal à 750 dollars l'unité.
Quatre journalistes sierra-léonaises qui avaient couvert une campagne contre les mutilations sexuelles féminines ont été obligés de se dévêtir et de marcher nus dans la rue par un groupe favorable à ces pratiques, ont indiqué lundi des témoins. Les journalistes ont été pris à partie vendredi dans la ville de Kenema, dans l'est de la Sierra Leone, par des membres du groupe Bondo, une organisation secrète traditionnelle qui pratique les mutilations sexuelles sur les femmes perçues comme un rite d'initiation. Ils ont déshabillé les journalistes et les ont forcés à marcher nus dans la ville avant que la police et des organisations locales des droits de l'homme n'interviennent, selon des témoins interrogés par l'AFP. Selon l'ONU, 94% des femmes et filles de Sierra Leone entre 15 et 49 ans ont subi une excision.
Je ne connais que trop bien la souffrance de Mabileko, car c'est bien elle là devant moi, qui s'essouffle à gravir cette côte. Si parmi nous quelqu'un n'aurait jamais dû se trouver à faire ce travail de forçat, c'est cette femme-là. 32 années d'un mariage heureux et comblé.
En effet, Mabileko, femme d'un inspecteur d'école, avait voyagé en Europe et en Chine. Elle profita de ses voyages pour monter un commerce de pagne, puis de tous les gadgets électroniques qui font la modernité. Au bout d'un an, elle était devenue une vraie femme d'affaires. Elle avait ouvert plusieurs magasins et, pour les approvisionner, elle voyageait plusieurs fois l'an en Asie, dans le Chongqing, Mansion de Hong Kong, ou les Trade Center de Guangzhou, en Chine continentale. Elle ne manquait jamais le Dubai Trade Festival, où les prix des marchandises étaient réduits de moitié. Elle gagnait tellement d'argent de poche qu'elle était devenue la pourvoyeuse du foyer. Le salaire d'instituteur, ridiculement bas de son mari, ne servant plus que d'appoint. De l'argent de poche, en quelque sorte. Son mari est atteint d'une leucémie. Elle fait tout pour le sauver. Elle arrêta tous ses voyages d'affaires à l'étranger pour veiller nuit et jour sur cet homme pour lequel son amour se renforçait un peu plus chaque jour qui passait. Elle courut tous les hôpitaux. Malgré tout cela, l'inévitable arriva. À la mort de son mari, elle n'avait presque plus d'argent. Les énormes dépenses qu'elle avait effectuées sans compter pour sauver son compagnon de tant d'années, avec lequel elle avait élevé une fille et deux garçons, avaient raclé toutes ses économies. Son commerce était au bord de la faillite.
Hey yo! Hey yo, linga defni! Defal danga danga samalaka! Hey yo!
De là-haut, la silhouette de Mabileko est toute petite, une silhouette de femme âgée défiant la montagne, portant une charge plus large que son dos, ce dos qui autrefois avait porté, soutenu, réchauffé dans la joie des enfants, trois enfants, mais qui maintenant ne transporte plus que des fardeaux de bois. Mais il faut continuer ma route. Je me retourne et je continue ma marche sur la grande route bitumée, sans pour autant empêcher que l'histoire de la dégringolade sociale de Mabileko ne me poursuive. Cela avait commencé lors de la réunion tenue entre les deux familles quelques jours après que son homme fut enterré, afin de faire le point sur l'héritage du défunt, comme le veut la tradition. C'est le moment que craignent toutes les femmes que je connaissais, le moment où le masque hypocrite affiché par les membres de la famille du mari, celui de la douleur partagée et de la compassion, craque pour laisser la place à une cupidité obscène. À côté, toutes les contraintes de la veuve éplorée, imposée par la tradition avant la mise en terre de son mari, ressemble à une récréation. Rester assis sur une natte, les pieds nus, les cheveux ébouriffés recouverts d'un pagne. Ne pas se déplacer seul, même pour aller aux toilettes, si ce n'est accompagné de deux duègnes, celles-là même par lesquelles toute parole venant d'un homme ou adressée à un homme doit passer. Non, cette fois-ci, c'était la curée.
La famille de son mari, belle-sœur en tête, critique la réception offerte par Mabileko aux invités des funérailles de son mari. Mais Bilenko n'est pas dupe. Elle savait que tout cela n'était qu'une mise en scène pour chercher à la dépouiller de tous ses biens. C'était ce qui se passait toujours quand on était femme ou veuve. Elle obtient peu de soutien de la part de sa famille. Mais à peine le laïusseur familial s'était-il tu après ses contorsions verbales et ses périphrases alambiquées pour dire ce qu'il fallait dire sans vraiment dire ce qu'il fallait dire, que Bileko s'était redressé dans son fauteuil. Le visage émacié, le corps fatigué par des nuits de veille et les privations du deuil, mais le regard brûlant d'une farouche détermination, elle se mit à les apostropher avec une insolence inhabituelle pour une femme dans ces circonstances.
« Mais où vous cachiez-vous donc avant sa mort ? Maintenant, vous voulez la maison, la Mercedes, les pagnes, les bijoux, la télévision, les magasins, l'argent ? Mais vous oubliez une chose, c'est que tout cela m'appartient. Et je connais l'intérêt de mes enfants, merci. Ne saviez-vous pas que votre parent avait un salaire d'instituteur ? Que j'ai acquis tous ces biens par mon travail, mes voyages, mes privations ? Je vais vous dire une chose. Je partageais tous mes biens avec mon mari. Mais maintenant qu'il est mort, j'en suis la seule propriétaire. Vous n'aurez rien. Vous m'entendez ? Rien. Nada. Qu'il déguerpisse illico presto. Sinon, je porterai plainte pour violation de domicile, de vol et menace. Une dernière chose. Petello, mon mari, m'aimait. Nous nous aimions. je ne porterai pas le deuil. Demain, je vais me faire tresser les cheveux. Je mettrai mon plus beau pagne et mes plus beaux bijoux. Il me regardera de là où il est. Il saura que je me suis faite belle pour lui. Le reste, je m'en moque. Allez, basta, sortez !»
Il s'ensuivit une bagarre générale. Mabileko fut introduite manu militari dans un taxi qui la conduisit chez ses parents. Lorsqu'elle revint dans sa maison le lendemain, elle fut injuriée et molestée par les neveux de son mari. Finalement, Mabileko, sa tante et ses enfants furent jetés hors de la maison, de la parcelle, dans la rue, humiliés et abandonnés à eux-mêmes. C'est dans ces termes qu'elle s'adresse à Méré.
Ne te fie pas aux lois qui sont sur le papier. Ils les écrivent pour plaire à l'ONU et à toutes ces organisations internationales qui leur donnent de l'argent et les invitent à leurs conférences. La vraie loi, celle que nous subissons tous les jours, est celle qui donne toujours l'avantage aux hommes. Si tu savais l'argent que j'ai dépensé en avocat et en procès, cela a engouffré le peu qui me restait encore après la mort de mon mari. Tous ces douaniers, contrôleurs d'impôts à qui j'ai filé des matabiches, tous ces soi-disant amis de mon mari à qui j'offrais des ristournes sur les iPods et autres gadgets électroniques, aucun d'eux ne me connaissait plus. C'est ainsi que j'ai été dépossédée de tout.
Flash info.
Flash info. Flash info.
Le Vatican dénonce les effets dévastateurs de la pilule sur l'environnement. En effet, selon le président de la Fédération internationale des associations de médecins catholiques, Pedro José María Simón Castelví, cette pollution environnementale causée par la pilule serait due aux tonnes d'hormones relâchées dans la nature à travers les urines des femmes qui la prennent. L'auteur estime également que les scientifiques catholiques disposent de suffisamment de données pour affirmer qu'une cause non négligeable de l'infertilité masculine, marquée par une baisse constante du nombre de spermatozoïdes chez l'homme en Occident, est la pollution environnementale provoquée par la pilule.
Le troisième jour de la lutte, toutes se retrouvent autour de Méré pour décider de la stratégie. La veille, les camionneurs sont partis sans rien prendre. Laurentine Paca propose de donner un préavis de 2 semaines, durée pendant laquelle elle continuera à vendre au prix courant de 10 000 francs tout en continuant de palabrer avec les acheteurs plutôt que d'arrêter brusquement comme elles l'ont fait. Cette méthode douce leur permettrait certainement d'arracher 2 000 francs de plus, peut-être même 3. Se dédire ne passe par jurer. Mabileko propose qu'un homme fasse équipe avec le porte-parole. Mukietu n'est pas d'accord.
Moi, je ne veux pas d'hommes dans cette affaire. Qui vous dit qu'ils ne vont pas nous trahir pour s'allier avec les commerçants pour quelques billets de banque? D'ailleurs, pourquoi les hommes de celles d'entre nous qui sont mariés ne sont-ils pas ici en train de casser la pierre avec nous? Voulez-vous que je vous dise? Ils attendent tout simplement, assis sur leur cul, que vous leur apportiez de l'argent pour qu'ils aillent le dépenser avec leur maîtresse. Je ne fais confiance à aucun homme. Ils ont beau avoir des bourses entre les jambes, ils ne sont pas si couillus que ça.
La réaction de Mukietu s'expliquait par le fait qu'elle avait surpris son mari, allongé sur sa petite sœur de 15 ans, pantalon baissé et grognant comme un porc.
Mais bon sang de bon sang, ne savons-nous plus marchander? Les gosses savent le faire. On commence par un prix qu'on sait exorbitant, mais dans sa tête, on a un deuxième prix sur lequel on peut se rabattre, peut-être même un troisième. En tout cas, on sait à l'avance le prix au-dessous duquel on ne descendra pas. Nous, c'est 15 000. Pas question de vendre à 10 000. Nous leur avons dit hier 20 000 francs, c'est très bien. Eux, ils n'ont pas hésité à doubler leur prix auprès des chantiers de l'aéroport. Le sucre, le lait, la farine, tout a augmenté, mais nous vendons au même prix depuis au moins 3 ans.
Comme tous les soirs, Méré entre dans la maison déjà plongée dans l'obscurité. Elle appuie sur le commutateur et les ampoules s'allument. Qui a dit que les miracles n'existaient pas ?
Malgré leur réticence, j'oblige les deux garçons à se laver avant de prendre le repas du soir, afin de se débarrasser de la crasse accumulée toute la journée. Pendant ce temps, je fais coucher Lyra qui somnole déjà. L'aîné finit ses devoirs assez vite, car aujourd'hui il n'a que des devoirs de géométrie, le calcul de l'aire de quelques polygones simples, le triangle, le carré et le rectangle. Je les laisse ensuite bavarder un peu avec moi, avant de les envoyer dormir sur le matelas de mousse qu'ils partagent, en leur disant de bien tirer leurs moustiquaires. Enfin, je peux m'occuper de mon corps.
Elle avait pris en charge Lyra, orpheline à 6 mois, depuis le décès de Tamara, sa sœur, morte du sida, malgré les soins attentifs qu'elle lui avait prodigués. Elle pensait que son mari l'aiderait à rebondir. Mais cruelle déception. Non seulement il lui avait reproché de trop s'investir auprès de Tamara et de le négliger, mais le jour où, soupçonnant son mari d'infidélité, elle avait exigé qu'il utilise un préservatif, il s'était montré violent. La situation s'envenima, et après une terrible dispute, Méré s'enfuit avec ses enfants. Dès lors, pour survivre, alors que lui faisait carrière dans les ministères, elle devint casseuse de cailloux.
Hey yo! Hey yo, linga defni! Defal danga danga samaraka! Hey yo!
Ça fait maintenant 4 jours que Méré et ses camarades refusent de brader leurs sacs et exigent d'être payés le double de la somme initiale. La discussion se durcit. Soudain, un cri strident, comme hurlé par un être mi-fou, mi-sauvage, déchire l'air. Les regards se tournent de temps en temps pour saisir le bon Dissou qui, comme une bête en furie, se lance sur l'un des chargeurs de camion. Le cri venait du tréfond de son âme taciturne. Le chargeur de camion avait malencontreusement posé son pied sur un de ses sacs. Surpris, l'homme catapulté loin du sac mord la poussière, tandis qu'au même moment, Issou s'abat sur lui comme une panthère et se met à le frapper, en émettant d'étranges cris brefs et rauques. 2 hommes, dont celui aux lunettes noires et à la casquette américaine, voyant le spectacle, se ruent au secours de leurs camarades et se mettent à frapper Issou tout en tentant de le dégager. Il n'aurait pas dû. Le sang de Yamoukietou n'a fait qu'un tour et, saisissant l'homme aux lunettes au collet, elle le soulève littéralement de terre et lui abat en plein visage son poing de briseuse de cailloux. Ses lunettes de star se brisent en deux et, sonné, il s'écroule. Ils sont moins d'une dizaine, vous presque le double. Tout le chantier s'est transformé en champ de bataille. Ils donnent des coups de pied et de poing. Mais elles ont leurs armes, les cailloux. Des pierres grosses et petites qu'elles lancent, qui les frappent au visage, au crâne, à la nuque, au front et aux tempes. Nombre d'entre eux se mettent à saigner. Ils geignent, ils supplient, implorent et certains finissent par pleurer. Alors c'est la débandade. Ils se précipitent vers leur camion sans demander leur reste et démarrent sur les chapeaux de roue. Puis plus rien. La place est vide. C'est la joie, une joie inattendue, accompagnée d'explosions de rire. Itella saisit une casserole et commence à taper dessus comme un tam-tam. Elles se mettent toutes à battre des mains, à danser et à yodeler. Et Issou est la première dans le cercle. Non seulement elle danse et saute, mais elle ne cesse de parler et de raconter comment elle a terrassé l'homme, comment elle l'a frappé et mordu, lui a donné les coups de pied tout en se tordant de rire. Elles sont toutes étonnées d'écouter ce déluge verbal sortant de cette bouche qui souvent ne prononçait pas un seul mot de la journée. Celles qui la connaissent bien expliquent que le cri sorti de son corps lorsqu'elle a frappé l'homme est le cri ravalé le jour où elle bascula dans son monde taciturne lorsqu'elle entendit le président de la République la traiter de menteuse, d'affabulatrice.
Ce cri qui avait obstrué sa gorge venait de la longue guerre civile qui ravagea le pays. Comme souvent dans ces cas-là, les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Issou était l'un des plus tragiques. Elle avait réussi à faire sortir du pays son fils de 18 ans, de peur qu'il ne fût enrôlé de force dans les milices rivales qui se combattaient. Il avait fini comme réfugié dans un camp du HCR, dans un pays limitrophe. Lorsque finalement l'une des milices gagna la guerre et que son chef devint président de la République, ce dernier, dans un geste de magnanimité sincère ou tactique, avait demandé à tous les réfugiés de rentrer en assurant qu'ils garantissaient personnellement leur sécurité. Pendant que Boutkou hésitait, Iyissou crut en la parole du président et pressa son fils de rentrer. Elle vit l'enfant débarquer parmi les premiers réfugiés. Son grand gaillard de fils n'était plus qu'une longue carcasse émaciée, épuisée par les longues marches, la faim, les diarrhées et le paludisme. Elle ne l'avait pas revu depuis 2 ans. Ce soir-là, elle se promettait de lui donner un bon bain chaud et de le faire manger à satiété. Lorsqu'il sortit du débarcadère, elle le prit dans les bras, le serra très fort en pleurant de joie. Mais sa joie fut de courte durée, car 2 soldats de la garde présidentielle qui triaient les passagers s'approchèrent d'eux et demandèrent au garçon de montrer ses mains. Fils de paysan, il avait toujours aidé sa mère à dégager les bosquets à la machette pour les plantations, à utiliser la hache pour couper les troncs d'arbres, pour faire du petit bois avec lequel il faisait du charbon. Cela laissait inévitablement des stigmates sur les paumes des mains sous forme de callosité. « C'est la preuve que tu manipules des AK-47 !» cria méchamment un des soldats. « Tu es un milicien ennemi !» Et hop, sans lui laisser le temps de s'expliquer, ils le jetèrent dans le fourgon qui l'emmena à la mort, puisque Iyissou ne l'avait plus jamais revu. Elle s'était jetée aux pieds des soldats, les avait suppliés, avait tenté d'expliquer que c'était un réfugié qui rentrait à la suite de l'appel du président de la République. Rien n'y fit. Elle avait été brutalement repoussée par des coups de brodequin, tandis que le camion, avec son plein de victimes, s'éloignait irrévocablement. Depuis, elle attendait avec espoir un mot du père de la nation. Jusqu'au jour où celui-ci parla. Il martela qu'il n'y avait jamais eu de massacre au port fluvial de la ville, que toute cette histoire était une manipulation de politiciens en exil qui en faisaient un fonds de commerce afin de déstabiliser le pays et de prendre le pouvoir. À ces mots du père de la nation, Iyissou revit en un bref instant son enfant arraché, avec des dizaines d'autres, par les soldats de la garde présidentielle. En état de choc, de voir que le même président, son président, pouvait mentir à ce point, elle s'était évanouie. et au lieu de hurler, de laisser échapper le cri de douleur, elle l'avait avalé. Et depuis, elle n'avait plus parlé.
Dans cette première partie, nous avons partagé le passé et le présent de Méré, de Mabileko, de Moukietou et d'Issou. Ce sont Denise, Marie, Christine, Gabrielle, Armel, Valérie, Yvan, Philippe, Dominique, Anne, Annie, qui vous ont raconté cette histoire. La semaine prochaine, nous finirons de vous dire la chronique de la lutte de ces femmes acharnées à défendre leurs droits. Claude Michel et Vincent sont à la technique. Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez